Bonjour Valerio Beraldin.
Bonjour.
Merci de nous rendre visite avec un livre sous le bras dans le studio de Radio Royan-Vercors à Saint-Jean-en-Royans, Les Mémoires de Valerio, par son auteur lui-même, Valerio Beraldin, avec le sous-titre de Sismon à Saint-Laurent-en-Royans, itinéraire d'un rital pas ordinaire. Un livre qui vient tout juste de sortir il y a
mois de juillet,
il y a quelques mois, et qui a été célébré à l'occasion. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou ça a été aussi le marchepied de cette initiative? La semaine Italie, Viva Italia, une thématique autour de l'Italie qui s'est déroulée mi-septembre à Saint-Laurent-en-Royans. C'était l'occasion justement de présenter cet ouvrage et de le dédicacer. C'est, ça s'est intégré comme ça ou c'est un petit peu aussi...
Non, ça s'est intégré comme ça. C'est, on a parlé par l'autre à droite et à gauche. Et on dit, si on faisait ça, c'est... Écoutez, ce livre... Bon, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Valerio Beraldin, déjà. Bon, je suis né en Italie, bien sûr.
Oui. Et donc, Sismon, comme elle dit que...
Sismon de Gras. C'est un petit village qui se situe à 70 km de Venise. Et c'est un lieu... C'est un sanctuaire, donc, et qui a été classé sous le pape, je ne sais pas lequel, d'ailleurs... et qui paraît-il qu'il y a un souris muet qui a repris la voix, il a pu la Vierge, il y a eu d'autres miracles, donc c'est un sanctuaire.
Et donc ce village d'Italie où ça a été finalement le début d'une existence qui n'a pas été forcément très facile, est-ce que ce qui a conditionné aussi la suite et notamment la vie à Saint-Laurent-en-Royans avec tout cette altérité qui vous habite?
Non, mais c'est un long chemin, ça, parce que je suis né juste le 26 avril 39, c'est-à-dire juste après une déclaration de la guerre, je pense. Et là, on vivait un peu dans la misère, là-bas. Soit il fallait survivre, comme je dis dans le livre, et il fallait penser, on a toujours au lendemain, ce qui allait se passer. Les Allemands étaient là. Il y avait... Il y a eu 74 bombardements dans le village. Ils visaient toujours ce même pont, un chemin pour le retrait des troupes allemandes. Voilà, donc... et là, ce qui m'a fait venir... Ça m'a fait venir aussi, pour vous expliquer, mon premier séjour en France, ça a été en 47 à Chambéry. Donc, vous... Il faudra les livres, c'est un peu loin.
Voilà, différents paragraphes. Alors, donc, Sismon del Grappa en Italie. Ensuite, eh bien, des allers-retours en France.
Voilà,
hein, plusieurs allers-retours.
Chose incroyable, j'ai fait 4 CP, quoi. Il faut le dire haut et fort.
Aussi, oui.
Et 4 CP en étant bon élève. Donc, c'est pour ça qu'on a fait voir ça. On en a même expliqué aux gens d'Amonet, là-bas, là, que les Rital à l'époque, les Italiens, comme les autres, Rital, parce que c'est Cavana qui a immortalisé le mot, quoi. Ça veut dire républicain italien, quoi, mais je ne sais pas trop. Et là, ça a été assez dur. C'est-à-dire, le premier CP donc, que j'avais expliqué, je l'ai fait en Italie, normalement. J'étais bon pour passer un CEA. Et puis après, c'est là que je suis allé à Chambéry. Un premier voyage. Et à Chambéry, ils m'ont mis à côté du radiateur pour pas que j'aie trop froid. Et comme ça, on m'oubliait un petit peu. Quoi. Et je me suis quand même débrouillé à parler la langue française à la fin de l'année.
Voilà, c'est ça. C'est la barrière qui a
donné. La barrière. Et là, donc, il n'y avait plus de boulot au bout d'un an à Chambéry. Mon père a décidé, avec ma maman, de retourner en Italie.
Retourner en Italie, oui.
Puisqu'on avait un logement là-bas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont mis en CP encore, parce que j'avais perdu la langue. Et le troisième CP, donc, j'étais un peu malheureux parce que j'avais perdu. Pour vous expliquer, même à Chambéry, je me souviens bien, à la fin de mon CP, j'avais dit à ma maman, « Guarda, maman, regarde, maman, il y a quasi... Non.
Oui.
Et ma mère, elle m'a filé une tarte.
Oui.
Parce que casino, l'italien, ça ne veut pas dire ça.
Oui, c'est quelque chose de beaucoup plus grossier que
un supermarché.
Et le fait aussi d'avoir, ce qu'on on retient dans cette première partie de livre, c'est la faim qui vous tenaille, même à Saint-Laurent-en-Royans, il y a des épisodes de famine.
Oui, au début, ça a été difficile, puis c'était la misère, quoi. Nous étions quatre familles du même village, pratiquement au Chaux, là-bas, à Poncholet. Mon papa travaillait au bois avec, je l'ai raconté dans le livre aussi, quoi, avec pain, et surtout le père Odeillet, le père Magnan, qui était le propriétaire. Et il y a même son fils qui est maintenant, il est toujours à la Syrie et tout ça, et qui est un gentil bonhomme incroyable, et qui se rappelle de tout ça, quoi.
Mmh. Voilà. Bah, Kizou, c'était votre un peu le référent.
Oui, donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que le quatrième CP, j'arrive à Saint-Laurent, bien sûr en train, et qu'est-ce qui se passe? Et il m'a mis, je m'étais mis où? Il m'a dit, je vais te mettre en CP. J'ai dit, écoutez, et au bout de 15 jours, le quatrième CP, madame Bonzon m'a dit comme ça, non, il n'est pas pour moi, je ne veux pas des élèves qui ont la table de m'éducation de 11 à 22. Hein. Mmh. Tu vas te le prendre tous les soirs et tu vas te le garder. Il dit, bah, chose promis. Il m'a dit comme ça. Et Bonzon, il m'a dit, à la fin d'année, tu seras en CM1. Donc, et il a tenu parole. Tous les soirs, il me faisait rester avec lui. Parce que mon cousin, lui, qui était agrégé, lui, il est venu agrégé, lui, après, Livio. On a suivi tous les soirs. Pendant qu'il écrivait, nous, il mettait à nos niveaux, tous les deux, quoi. Parce que mon cousin n'a pas souffert de l'aller-retour. Il était directement...
Il était un peu plus âgé que vous.
Un peu plus âgé, 2 ans de plus.
Oui. Et... cet instituteur, c'est quand même un pan extraordinaire. C'est lui qui a déclenché.
Il m'a déclenché l'esprit d'écrire déjà.
Oui.
D'écrire. Il m'a dit, même si tu écris mal, écris, ça te fera du bien. Donc, il m'a fait même compléter quelques mots. Le petit passeur du lac, le livre qui est dédié à Livio, d'ailleurs. Et moi, j'avais écrit La Rosse de la Polente, quelque chose comme ça, par exemple.
Alors, rappelez-nous, Valerio, Paul-Jacques Bonzon, c'était quand même un personnage qui était bien reconnu.
Il pratiquait la méthode Freinet,
oui.
Qui consistait d'ailleurs à les visites d'usines. Il nous aidait, par exemple, des écoles de sciences, sciences physiques ou n'importe quoi, là-haut, à La Croix, à 800 mètres, avec un groupe de 30 élèves. Quoi. Ils étaient maintenant, ils seraient en prison, hein. Et mieux que ça, c'est un gars qui était formidable. Vraiment, je veux pas en dire plus. Je le compléterai dans le livre.
Et puis auteur de nombreux ouvrages.
90, je crois un peu plus.
Les six compagnons.
Les six compagnons, c'est plutôt commercial.
Oui.
Alors,
mais c'est ce qu'il
nous,
a fait
à l'époque, c'était Mon Vert Corps en Feu, c'était L'Éventail de Séville, c'était. Du Guy pour Christmas, et on lisait ces livres en lecteur suivi de 3h30 à 4h30 d'après-midi, tous les jours. Inutile de parler français, ça allait tout seul, hein, donc c'est pour ça. Et cette envie de écrire, il me l'a donné, vraiment. Il était un gars formidable, je peux pas en dire mieux.
Qui faisait en sorte que chaque aide se construise au mieux, avec un esprit d'ouverture... qui était assez remarquable pour quelqu'un qui, même de sa poche aussi, pouvait aider les
élèves. De sa poche, il sortait dans la preuve, c'est que il avait trouvé moyen de placer quelqu'un, le petit Pierrot, là d'ailleurs, hein, qui est j'en parle dans le livre, et ça nous faisait un peu d'argent pour le... C'est une longue histoire, je me tiens que vous lisez le livre.
Alors l'arrivée à Saint-Laurent-en-Royans, après Sismone, donc c'est dans les années...
49, c'était au mois de septembre, pour la rentrée scolaire, et là... Donc, on a commencé, d'ailleurs, on avait quatre familles italiennes d'abord en bas à Poncholet, il y a quatre, Basoli, par exemple, Sorenzo, Donazolo et Beralda, les quatre familles. Parce qu'on dirait pas, mais sur Saint-Laurent, il y a eu 16 familles du même village, à l'époque, hein, parce que maintenant, il y a peut-être même... ils sont partis, quoi, plus ou moins, et puis ils sont français, ils sont devenus français. Quoi.
Est-ce qu'il y avait des vagues d'immigration précédentes d'Italie
le premier immigrant qui a du Royan, Vercors, tout ce qu'on veut, il est coté en bourse, c'est Perazio, en 1870. C'était déjà pas mal. Hein. Donc il est venu avec sa gamate et sa truelle, vous voyez où il en est maintenant.
Et après, donc, dans les années 40,
alors,
50,
il y a eu le fait du fascisme, déjà. C'était après la guerre de 30, de 14-18. Le Monte Grappa, pour les Italiens, c'est le Mont Sacré, ils appellent ça. Et il y a Hemingway, d'ailleurs, qui avait un livre là-dessus sur l'adieu aux armes. Et là, disons, c'était une époque qui était assez dure. Et Chismon était devenu une république communiste pendant 5 ans, avec leur pièce de monnaie, indépendant et tout. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, avec les noms des gens qui faisaient partie du Parti communiste.
Oui.
C'est extraordinaire. Il faut savoir l'italien, malheureusement, parce que ça fait partie du lot. La solution était simple. Soit tu acceptais ce que disaient le curé et le Parti communiste, et même les fascistes, soit tu t'en allais, pour ne pas te mettre au dos tous ces gens-là. Donc j'ai eu mon oncle, Donzolo, lui qui il a choisi de venir à Saint-Laurent en 23, parce que ça devenait fasciste, et lui, il ne supportait pas. Donc voilà donc les faits. Donc il a fait toute sa vie à Saint-Laurent, tout ce qu'on veut, quoi.
Une vie aussi bien remplie pour vous, Valerio, ce qui apparaît dans le livre en tant que bien ajusteur, hein, c'est ça.
Oui,
puis après d'autres, il y a eu d'autres métiers qui ont suivi.
Oui, alors il fallait faire un choix. À la fin de l'école au certificat d'études, bon, j'ai eu mon certificat à l'époque. C'était assez difficile pour l'avoir d'ailleurs. Et là, ça s'est passé un peu. Il fallait trouver un choix. Soit j'apprenais un métier, il disait. Moi, j'aurais aimé être menuisier. Et mon père voulait pas. Ça gagne plus, ajusteur, il me disait. Donc, mécanicien ou des trucs comme ça. Et j'ai accepté d'être mécanicien aux techniques à Romans. Donc, c'est Bonzon lui-même qui m'a amené pour passer la sélection, quoi. Et j'ai réussi la sélection. Et là, j'ai fait mes 3 années à Bourg-de-Péage. 2 années plus 1 technique à Romans. Donc c'est une histoire et c'est là que j'ai commencé ma vie professionnelle.
Et Pont-en-Royant aussi dans la
voilà, non, ma vie professionnelle à Pont-en-Royant. À 16 ans, j'étais ajusteur, j'étais à
la CG.
À la CG.
Ah oui.
C'est un appelé CG à l'époque qui maintenant est venu, je sais pas, de Paris, ça a été Arnould, après il y a eu des changements de et maintenant c'est devenu un musée, c'est ça.
Ah ben, il y a toujours une unité Legrand.
Ah, il y a une unité Legrand, mais c'est PR2, ils appellent ça. À l'époque, ils appelaient ça PR2. Mmh. Là-bas, on faisait les moules.
Oui.
Moules pour faire des pièces, quoi.
Et qu'est-ce qui a fait que vous partiez ensuite dans le monde plus de l'éducation nationale, finalement?
Alors là, j'ai ma femme, ma première femme, bien sûr, Perrier, et qui, elle était jeune, elle avait 19 ans à l'époque. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait faire éducatrice. Donc, elle est rentrée chez Sourd-et-Muet. Et on lui a conseillé de faire l'école 3 ans pour être éducatrice spécialisée. Chose qu'elle a fait de suite. Mais au bout de 3 ans, moi, j'étais tout seul à Saint-Laurent, avec ma fille, Anne. Et là, c'est là que ça s'est passé. On s'est séparés parce qu'elle avait sa vie d'étudiante. Et moi, j'avais une vie normale, quoi, que j'étais ajusteur à l'époque et je très travaillais. Et c'est là qu'elle m'a dit l'idée, écoute, Valerio, il faut à tout prix que tu reprennes tes études et que tu ailles à Grenoble. Comme il y a des places d'éducateur technique, tu peux y aller. Et c'est là que je suis rentré à l'IME Henri Dodignon, qui était sous contrat avec Éducation nationale, juste à côté d'Argouge d'ailleurs. Mmh. Et c'est là que j'ai commencé ma vie d'éducateur. J'ai fait 3 ans. Et de suite, je me suis intéressé à la vie locale. Quoi. Mmh. Tout en gardant sur Saint-Laurent,
oui.
ma résidence que j'avais à l'époque. Quoi.
Ça a été un levier aussi pour les activités sportives ou aussi?
Ah ben là, les activités sportives, je n'ai eu plus qu'il en faut.
Ah, oui.
Donc j'en raconte quelques-unes de mes initiatives. La première, peut-être, c'est qui m'a le plus marqué ici, c'est avec le père Claire, qui a fait rentrer la plupart du temps des gens aux pompiers à Paris. Et, disons, et il y a peut-être, je dirais, une bonne dizaine qui sont devenus pompiers professionnels à Paris. Donc la gymnastique, c'était mon premier sport, donc avec lui. Ensuite, j'ai joué au rugby à Pont-Orient, à l'époque où il y avait Pont-Orient et Saint-Jean-Royant ensemble.
Ah oui.
C'est une époque. Et au moment de la séparation, j'ai choisi de rester à Pont-Orient parce que je travaillais à Pont, quoi. Voilà.
Après, il y a eu d'autres facettes de sport.
Ensuite, j'étais attiré par le foot. Mmh. Un tout petit peu, mais pas. J'étais très maladroit. Au foot, j'étais affreux. J'étais pas bon. Je reconnais que j'étais pas bon. J'étais bon dans les sports de combat, donc oui. J'ai choisi le judo.
Et d'ailleurs, vous êtes ceinture noire, non ?
Oui. Donc, la partie judo est encore assez importante dans le livre.
Oui.
Je n'aimais pas perdre. Je détestais perdre. Je ne voulais pas perdre. Il fallait que je gagne à tout prix. Que t'as le mordre, mais il fallait que je gagne.
Ouf. D'où des anecdotes assez truculentes.
Que je raconte dans le livre, que l'entraîneur, qui est devenu d'ailleurs conseiller technique régional, Cusmier, il m'a dit, mais c'est vrai ce que tu dis. Et si vous voulez, il me met dans les poids lourds. Moi qui faisais 72 kilos, le gars, il faisait 140 kilos, il faisait. Il s'appelait Saez, je ne peux pas te le dire, et il se rappelle encore Saez d'ailleurs. Ouais. Il est encore vivant. Et il me dit, comme ça, tu crains, t'as qu'à faire quelque chose, s'amuse-toi, tu te laisses tomber, puis c'est tout. Il dit, je le gagnerai ce gars-là, je le gagnerai. C'est un gars qui était ceinture noire comme moi.
Mais avec un stratagème quand même pas ordinaire. Mais
pas ordinaire, ouais. C'est pour ça que vous lirez dans le livre ça.
Ouais.
Que j'ai été un petit peu. Et là, c'est là qu'après la ceinture noire, je fais un peu des virages. Il y avait donc les filles Bruchères. À Saint-Jean, chercher un entraîneur pour le judo. Ils avaient ouvert une salle derrière la salle des fêtes, du préfabriqué, et avec l'appui de M. Guillet, à l'époque, qui était maire, il m'a chargé, dit, écoute, les filles Belchien m'ont dit, écoute, tu peux faire un effort. Je dis, non seulement je vais faire un effort, mais je vais vous faire ça gratuit. Chose qui n'existe plus, mais cette histoire. Et ensuite, on a ouvert la salle, je ne sais pas en quelle année, vous verrez sur le livre. Et au début, ça a été assez difficile, mais ça a quand même bien réussi. Il faut dire que j'étais très bien appuyé par les deux filles Bruchères à cette époque, et qui ont fait tout le total, quoi. Et de suite, on a fait le plein. C'est-à-dire, avec des gens comme Charlie Mottet, coureur cycliste, les deux frères, puis la sœur Melvaux. Des vétérinaires, deux gendarmes qui sont restés 15 jours parce qu'ils ont été rappelés par la hiérarchie, parce qu'il était interdit à l'époque de faire du self-défense avec eux. Donc je leur apprenais et surtout j'avais toute une équipe de filles que j'apprenais le self-défense pour eux, elles adoraient ça. Je plains les gars qui ont attaqué mes filles, je les plains tout mon cœur.
Il y a aussi le côté, bon, certes, on a évoqué l'encadrement sportif aussi avec le handball.
Alors là, c'est encore un autre sport, ça. On m'a appelé, ma femme était prof de gym à l'époque, et ma deuxième femme. Et là, disons, elle était branchée handball. Et je me suis dit, puisque pourquoi pas faire une équipe féminine de handball. Donc on a fait une équipe féminine de handball. Non seulement on a très bien réussi, mais au bout de 3 ans, on était champion Dauphiné Savoie. Ouais. Question honneur, donc. Catégorie honneur. Donc avec des filles que Saint-Jean connaît, quoi.
Alors il apparaît aussi quelque chose dans ce livre lié à Saint-Laurent-en-Royans, c'est la vie politique auquel vous avez bien participé, et de part aussi votre famille.
C'est un gros morceau, la vie politique. Ah, c'est même des morceaux à polémique, à la rigueur. Tout a commencé par... disons, je venais de faire 28 mois et 2 jours en Algérie, et je n'étais pas obligé de partir en Algérie, parce que j'étais italien à l'époque, et j'ai voulu, tous mes copains partaient, qui jouaient au rugby avec moi, ou au handball, ou n'importe où, enfin, tout qui faisait du sport avec moi, quoi. Et moi, je me suis senti tout seul, je dis, moi, je pars avec eux. Moi, je suis parti avec eux, et j'ai fait un choix. Parce que j'avais même réussi le concours pour des pompiers à Paris à l'époque, mais mon papa n'avait pas voulu me signer parce que j'étais mineur et la majorité était 21 ans à l'époque. Donc je suis allé à l'armée. L'Algérie, je n'ai pas parlé, ou très peu du moins, ou des trucs marrants qui me sont arrivés parce que j'ai vu des choses affreuses qui ne m'ont pas plu. Et là, disons, la politique m'intéressait. Parce que un jour, Donc je reviens d'Algérie et puis je voulais m'inscrire, j'avais 22 ans, je voulais m'inscrire sur les listes électorales et j'ai vu la secrétaire de mairie qui était la future femme de Cibeu, et la Monette il l'appelait, et le surnom, hein. Et Cibeu, ils me disent, Monsieur Beralda, elle me dit, vous n'avez pas le droit de vous inscrire sur la liste, j'avais 23 ans. Elle me dit, pourquoi ? Vous êtes encore italien, il vous faut 5 ans dans la société française. Là, ça m'a révolté. Et là, j'ai toujours dit, et j'ai pas peur de le dire, c'est un scandale. Je fais 28 mois et 2 jours en Algérie, et j'ai pas le droit même de m'inscrire sur les vols. Ah, mais c'est la loi. Et là, il y a eu un sourire, parce qu'il savait que j'étais pas de son bord. J'étais socialiste à l'époque, et je le suis encore. Et là, disons, ça m'a pas plu. Je dis comme ça... Il dit à propos, Gérard, tu as fait le service où, toi ? Oh, moi, j'ai fait un mois à Valence, dans les artilleurs, et j'étais libre. Il dit, c'est de la chance, je dis. T'as pas réfléchi, là ? Voilà, l'histoire de comment que c'était, comment je suis rentré en politique. Mmh. Et de suite, il y a Villard, Maurice Villard, qui était mon grand copain à l'époque. Son fils a été maire pendant 2 mandats. 14 ans avec lui, j'ai fait.
Jacques.
Et de suite, j'ai été passionné par ce bonhomme, qui était si sympa. Et il a dit, on a voulu faire une liste. Là, vous trouverez tous les détails dans le livre, parce que c'est assez long à expliquer. Et je me suis présenté la liste contre Cibeu. Il fallait être courageux à l'époque, parce que pour compléter la liste, il faut le dire ce qui est, on a eu un instituteur Bessier de Baudepéage qui était propriétaire à Saint-Laurent. C'est lui qui a complété la liste pour nous faire plaisir. Et surtout, on n'avait que 2 femmes, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mes femmes, on pouvait être 13 hommes, c'est pas grave. Et là, à la surprise générale, on a eu 2 élus. À l'époque, c'était Place, l'oncle à Charlie Mottet, qui était élu. Et la postière, Banzal Bidon, qui était au PC d'ailleurs, et qui était élu 2, donc ça s'est terminé. Donc là, c'est toute une histoire, il faut continuer à lire.
Avec votre frère, hein, qui a été.
Donc, ah non, mais ça, c'est une autre histoire, ça. Mon frère, et dans le mandat d'après, il y a eu un problème. Il y a eu cette histoire de 2 élus qu'on a eus, et dans la foulée, Amaillon, qui est un gars qui Cibeu avait recruté pour sa liste, qui avait été élu, Clos et Crépin ont démissionné parce qu'ils étaient opposés à la politique de Cibeu à l'époque. Donc, ils démissionnent tous les 3. Mais les 3, il fallait 5 pour qu'il y ait des élections partielles. Donc, les 2 de chez nous ont démissionné. Ça faisait 5. Élection partielle. Et c'est là que mon frère est rentré. Au conseil municipal. C'est-à-dire, il y a eu des élections partielles. Il y a eu 5 élus. 5 élus sur 13 à l'époque. C'était un bon chiffre, quoi. On commençait déjà. Il commençait à sentir le roussi, déjà. Voilà, voilà comment ça a commencé pour mon frère.
Et après, de fil en aiguille...
Il a fait 3 mandats. Ouais. Direct avec des personnages différents, des problèmes de l'époque, peut-être, patata. Et voyant que ça avait bien marché, au bout de 3 mandats, il me dit, j'en ai marre, je m'en vais, parce que 3 mandats, ça me suffit, je vais à Romans, Filiou, à l'époque, pas des Filiou, mais celui qui a pris Filiou, quoi. Et ben, il a été élu, il était aux finances à la ville de Romans. Ils l'ont mis. Et surtout, il était conseiller de Berthollet en même temps. C'est pour ça qu'il est rentré. Il a fait donc 2 mandats à Romans. Et donc, il fallait quelqu'un pour remplacer. C'est le mandat qui était. Il n'y a pas eu Béraldin, là, cette fois-là. C'était le mandat Crépin. C'était la fille à celui qui avait démissionné, qui était élu et qui était élu maire par la force des choses. Il ne trouvait personne pour être maire à l'époque. Voilà, donc elle s'était dévouée, une femme, elle en est déjà 4 livres, là. Parce qu'elle elle est très bon niveau au point de vue scolaire. Et là, à la fin du mandat, Donc elle s'est plus représentée. Il y a eu Jacques Villard qui est rentré. Et j'ai été élu pendant 14 ans. 14 ans, mais pas de suite. J'avais, parce que j'étais à la retraite en 97. Et au bout de je voulais donner 5 ans encore de ma vie, à, disons, à la société. Et j'ai fait de l'humanitaire. Donc j'en parle.
Dans justement, j'allais... Donc, embrayer sur cet aspect de curiosité, tout d'abord de voyage et puis aussi d'humanitaire.
Alors, oui, donc l'humanitaire. Donc, je voulais finir simplement la politique pour dire qu'après Crépin, il y a eu Villard. Mais après Villard, il y a eu ma fille Laura qui a été conseillère municipale. Et maintenant, c'est mon fils qui est le maire. Pas trop de politique là-dessus parce qu'il y a les élections bientôt.
Voilà donc la politique qui est vraiment bien partie prenante de cette volonté aussi bien de la commune, hein, de cette vie sociale à Saint-Laurent-en-Royans. Et puis bien sûr, donc vous êtes un curieux de nature, assez altruiste, donc le voyage humanitaire, ça fait un peu sens.
L'humanitaire, ça a été une grosse partie de ma vie. Et donc j'ai tombé sur le directeur de la plateforme à Romans. Qui faisait partie des Tracols à l'époque, sa femme était directrice. Et il m'a dit, je cherche un chauffeur poids lourd. Et il me disait, il paraît que tu as le poids lourd. J'ai dit, oui, j'ai le poids lourd et même le transport en commun, parce qu'à l'école où j'étais, dans la formation permanente, on m'autorisait à faire des stages un peu partout. Moniteur, de, par exemple, accompagnateur de montagne, je l'ai eu. Ensuite, ski de fond. Ensuite, judo. Je me suis perfectionné un peu en judo. Toujours dans les... Par exemple, pour être aide-moniteur, à l'époque, c'est aide-moniteur, oui. Aide-moniteur, je suis allé à Mâcon pendant 2 mois. On m'a envoyé là-bas. Il y avait de l'argent pour la formation permanente à l'époque. Mmh. Donc, c'est pour ça. Et donc, j'ai eu mon permis aussi en formation permanente. Ça permettait au directeur aussi de conduire toutes sortes de trucs et d'amener les élèves à droite à gauche. Donc c'est pour ça. Ouais. Et j'en viens, voilà, donc cette histoire d'humanitaire.
Donc c'est ainsi que vous êtes parti vers l'Albanie, d'autres pays.
Alors j'ai commencé
comme ça.
Par Sarajevo.
Sarajevo. Ouais.
Et ça a commencé assez mal d'ailleurs, puisque j'ai pris le camion pour y aller à Sarajevo. J'avais 2 personnes avec moi qui m'aidaient pour décharger le camion, pour qui faisaient partie de la plateforme, ils appellent ça quoi. Par contre, ils avaient un petit revenu. Mmh. Et moi, je faisais ça bénévolement. Et on a pris le bateau à Bari pour se rendre sur Sarajevo. Et là, s'est passé un truc. C'est à 2h du matin, le bateau a explosé. Et on nous a dit, dans toutes les langues, sauf bien sûr l'italien, il parle en anglais... et langue locale et tout, qu'il fallait vite se monter sur le pont, qu'on allait couler. Alors, tous les gens pleuraient. Je sais pas, j'étais insensible à ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'étais insensible, mais je voyais les 2 que j'aimais avec moi, ils pleuraient de tous les côtés. On va mourir. Il n'est pas encore mort, on est encore là. Mmh. Et là, il y a eu l'attentat. C'était un attentat. Il y a eu 40 chiens qui étaient noyés dans la soute. Et le capitaine de bateau, il a noyé la soute pour éteindre l'incendie en pleine mer, tout en dansant un SOS. Quoi. Et il a eu la bonne idée, et ça a éteint l'incendie. Par contre, il fallait voir dans l'état. Au lieu de mettre... on a mis 2 jours pour arriver de l'autre côté, quoi, parce qu'on était au ralenti.
Des voyages qui ont conduit aussi en Afrique.
Ah, ça, c'était...
C'était plus c'était tard, un peu plus tard.
J'appelle ça, moi, du luxe. Pour moi, ce que j'ai fait en Afrique, c'est du luxe.
C'est-à-dire un peu du tourisme, finalement.
Voilà, parce que je ne connais rien. C'était le Sénégal, d'ailleurs. Une ville... J'étais d'ailleurs avec Morin, qui était avec moi, avec sa femme. Tout. J'avais la sœur du maire de Bouvante,
Marie-France,
qui est venue avec nous. Bah, toute une équipe. C'est, comment expliquer ? Pour moi, c'était de l'humanitaire de luxe. Mmh. Parce que, mais attention, ces gens-là, ils ont quand même amené une ambulance à quatre. En traversant les déserts et tout, il fallait le faire. Une ambulance, que je vais vous dire une anecdote, qui au bout de deux semaines a été foutue. Il a eu un accident, le gars, il n'a plus d'ambulance. C'est pour ça. Et là, j'ai appris des tas de trucs, mais rien à voir avec.
Mais c'était plus la coopération finalement.
Non, rien à voir. Parce que là, il fallait qu'on se débrouille, nous. Ouais. Il fallait qu'on se débrouille, quoi. Avec, surtout, après, c'était l'Albanie. L'Albanie, ça a été assez dur parce que c'était la mafia. Et c'était assez dur. J'étais. Dans ce pays, la mafia est très présente. L'exemple le plus flagrant, on m'a fait sauter les plombs du camion, on m'a gentiment enlevé du chocolat que j'avais pour les enfants, du truc comme ça, et en me disant, j'ai dit comme ça, mais c'est pas pour vous, c'est pour les enfants, ça, de l'hôpital où je l'amène. Il a dit, mais nous, on est des grands enfants. Ils ont remis des plombs gentiment. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Quoi. Voilà. Donc, l'Albanie, ça a été deux fois. Sarajevo.
Vous avez fait des allers-retours d'ailleurs avec chercher un camion.
Parce que le camion, il a été en panne une fois.
Donc, il a fallu refaire
des. Il a fallu faire un demi-tour.
Encore un demi-tour.
Donc, il y a un voyage où j'ai amené quelqu'un aussi qui était dépressif. Et qui m'a piqué une crise terrible, qui ne voulait pas monter dans l'avion, c'était terrible pour moi. Là. Parce que j'avais laissé le camion pour le venir chercher, parce que c'était trop long pour le réparer. Non, mais ça s'est bien passé quand même.
Voilà, et puis d'autres voyages. À Rome, par exemple, il y a eu d'autres voyages.
À Rome, à Rome, dans le voyage, c'était très folklorique. Parce que j'ai ma cousine germaine, je l'ai appris après d'ailleurs, une de mes cousines germaines de mon père. Et donc, elle était dans mon village, à Gisbon de Grappa, pour les décennales, ça s'appelait ça. Parce que tous les 10 ans, c'est les fêtes de la Vierge. D'ailleurs, en première page, la photo qu'on voit, c'était l'année dernière. Et là, disons, c'était un peu. J'étais au bistrot, et puis je vois une bonne sœur qui s'approche de moi et qui me dit comme ça : Tiens, Valério, comment est-ce que tu arrives ? Salut, Valério, comment vas-tu ? Je dis : Mais j'ai pas de bonne sœur. Dans ma famille. Si, si, il me dit. Je suis la cousine du côté de papa, de Marine. Alors je dis, ah bon, qu'est-ce que tu deviens ? Il dit, mais je suis à Rome. Je suis mère supérieure des Orsolines, généralissime de l'ordre. C'est un ordre qui est indien. Elle faisait faire 4 ans dans les Indes et elle était mutée à Rome auprès du pape. Donc, je lui dis, mais là, tu vas m'inviter pour du pape. Et pourquoi pas, qu'elle m'a dit. Mais j'ai cru que c'était une plaisanterie. Et puis, non, je te recevrai. Voilà, à voir dans le livre, tout ce qui s'est passé.
Ouais. Eh bien, on ne peut que convier le public à voir un petit peu plus précisément de ce qu'il en retourne par rapport à ce que vous nous avez présenté. Ce livre qui est facilement. Trouvable, donc
oui,
la salle Laurent-Royant est un repère pour justement le trouver.
Ici, à l'éphémère. Je l'ai mis à l'éphémère parce que ce sont des gens qui vivent un peu chichement. Quoi. Ils ont 10 employés là-dedans, c'est des bénévoles souvent. Donc j'ai voulu faire ce geste-là dans mon esprit. Et je n'ai pas voulu de bibliothèque du tout. J'ai dit, allez, c'est très bien chez vous, parce qu'il y a beaucoup qui auraient demandé. Hein. Ouais. Vu qu'il y a eu un certain succès, le succès qu'on a eu, bon, il y a eu 80 personnes samedi, là, donc c'est vraiment, pour moi, c'était formidable. Quoi.
Donc la boutique L'Éphémère à Saint-Jean-Royant.
À Saint-Jean-Royant.
Sur la place
et
de l'église.
J'en ai mis quelques-uns à la bibliothèque, à Saint-Laurent, même oui. à la médiathèque, s'il ne peut pas se déplacer. Quoi. Voilà.
Voilà, ça donne aussi une lecture de Saint-Laurent-Royant des années 50 finalement à notre époque.
De l'année 49 à nos jours. Ouais. Sauf mes années que j'ai passées sur Grenoble et Chirol, quoi. Pour finir ma carrière.
Mais vous aviez toujours un pied quand même à Saint-Laurent.
Ah oui, mais j'ai tout gardé.
Ouais.
Je l'ai fait dans les années 64-65. Ce pied-là, donc je l'ai toujours gardé. parce que je gagnais bien ma vie avec ma femme. On a pu faire une maison et avec l'aide de ma belle-sœur, on a pu acheter un appartement à Échirolles, une tour. Voilà.
Ce livre qui est une auto-édition, c'est...
C'est Flamand qui m'a beaucoup aidé, Madame Flamand de Sainte-Eulalie,
ouais.
Qui m'a beaucoup aidé pour l'édition, tout ça, à Valence.
Édition du Salvanel.
Salvanel. Oh, Salvanel, c'est une bête. C'est elle qui m'a inventé ce truc-là. Le Salvanel, c'est une bête que si on le voyait, il paraît qu'on pourrait avoir un accident. Mais c'est un dit-on, le Salvanel. C'est un truc allemand, un peu. Qui relate un peu la fin, c'est-à-dire quand ma maman allait à la montagne chercher du bois, mettons, il y arrivait de voir le Salvanel, mais surtout il ne fallait pas lui parler.
Ah oui.
Donc c'est tout des trucs comme ça, c'est le diablotin, comme on dit.
Un peu des croyances.
Des croyances, quoi. C'est pour ça ouais. Que. Mais disons, la vie a été assez dure, quoi. Du même les premiers 2 ans en France, ça a été assez dur. Et c'est là que je peux en parler un petit peu. À Pontchalet, nous étions 4 familles. On avait un robinet d'eau pour 4, qui était un bassin dehors. On avait un WC pour 4 familles, qui était le WC, les excréments tombaient directement dans le chaulet. Pas de chauffage. C'était le bois de la Syrie. Qu'on brûlait, quoi. On avait trouvé le moyen de brûler de la sciure en faisant des poêles à sciure à l'époque. Il s'était penché sur la question et ça avait bien réussi. Et donc, c'est une époque qui était assez dure dans la vie, l'époque de ma vie qui était assez dure. Mmh. Et puis, c'est une histoire de racisme de certaines de certaines personnes, que je ne dirai pas les noms, mais exemple... Il y avait 3 de mes poules qui sont échappées là-haut, à côté du champ. On me les a tués tous les 3. L'individu est venu chez moi en me disant, comme ça va chez tes poules, là-haut, elles mangeaient mon raisin. J'ai dit, d'accord, voilà, on va les chercher. Mais quelques temps après, ce même gars, il a eu un chien qui était empoisonné. Et il a su qui c'était. Ce monsieur est venu après le voir, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais. Il dit, moi je ne suis pas un Italien, hein, il lui a dit. Donc il y a des gens... Et ensuite j'ai eu la même famille, je peux même dire le nom, il n'y a aucun problème, Magnan, le garage, qui m'ont donné 3 nouvelles poules, et en disant que c'est un con.
Ouais. Un méchant con.
Un méchant con. Voilà. Donc, c'est pour ça.
Donc aussi, voilà, c'est comme l'arrivée à Chambéry aussi,
voilà,
le premier appartement.
Voilà, l'arrivée à Chambéry, ça a été terrible, parce que c'était encore plus terrible, parce que c'était un garage aménagé.
Oui, c'est ça, vous aviez qu'un petit fenestron pour une guise de fenêtre.
Et surtout, on était envahi par les mites, mmh. Et j'étais allergique à ça un petit peu. Et on a envisagé de retourner en Italie.
Ouais.
Parce que notre maison, c'est un château à côté.
Ouais.
Et on a eu de la chance parce que ma maman, elle faisait des ménages chez un riche Indochinois, d'Indochine à l'époque. Et j'ai eu le droit à des douches des fois chez eux. Ils n'étaient pas là, donc j'en profitais pour faire une douche.
C'est l'ambassadeur.
Ça. Voilà, c'est pour ça que...
Merci beaucoup Valerio pour et bien celles et ceux qui souhaitent voir un petit peu.
Donc j'ai pas été trop long, j'espère.
Non, c'est un plaisir.
Parce que je parle un peu trop, on m'accuse de ça souvent.
Mémoire de Valerio de Sismonde à Saint-Laurent-en-Royans, itinéraire d'un rital pas ordinaire.
Voilà, c'est exact.
Merci
à vous
pour ce partage.
De m'avoir accueilli tout à la fois, quoi, et des gens si charmants.
À bientôt Valerio.
À bientôt. Ciao.